Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Une excellente première heure. Si vous avez raté notre premier débat sur Irlande-France, vraiment, vous pourrez vous précipiter cet après-midi. Je vous rappelle cette journée exceptionnelle. À partir de 14h, nous serons en direct de Dublin pour une émission spéciale. Coup d'envoi 15h15. Simon Dutin, Fred Weiss, Philippe Saint-André et Marc Madio ce matin. Dans quelques instants, le bras de fer des GG. On va parler de la lourde sanction de Paulo Fonseca. Interdit de banc de touche pendant 9 mois, de vestiaire pendant 7 mois. Peut-on encore entraîner dans ces conditions? À 10h30, la punchline des GG. Audrey Scholl, légende de l'Irlande, compare Antoine Dupont à Lionel Messi. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis 10h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, vous avez quelques secondes pour nous vendre votre débat. Ce sera soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Et ensuite, le grand gagnant viendra exposer sa problématique. Philippe Saint-André, t'es pas souvent avec nous. Tu veux nous parler de quoi ce matin?
Eh bien, du 7-1 que Fabien Galthié fait sur le banc, c'est-à-dire 7 avant, 1 3 quarts. Pour moi, il fait all-in. Si vous voulez qu'on en parle, votez pour moi.
Ok, ça voilà. C'est du teasing. Oh là, il n'est pas là souvent. Voilà, prenez exemple sur Philippe Saint-André.
C'est concis, c'est
efficace. Avec ton autorisation, je vais enregistrer cette petite séquence et je vais la diffuser à Christophe Cessieux. Juste pour voir s'il est capable, dans ce laps de temps, de nous faire un teasing exceptionnel. Merci
beaucoup. Je suis sûr que non.
Marc Madio, ta proposition.
Luis Enrique.
Ah, ton nouvel ami.
Mon nouvel ami.
Oui.
Pour moi.
Ah, c'est tout.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il a été génial?
Voilà. Génial ou non, Luis Enrique. Je rappelle que Marc Madio a rencontré Luis Enrique à l'occasion d'un échange entre managers. Il t'a converti, on peut le dire comme ça. Et puis toi aussi, tu l'avais emmené dans ta voiture et tout ça pour expliquer ton fonctionnement. Fred Weiss, on te propose quoi ce matin?
J'aurais envie de parler de Dallas, qui a fait un échange incroyable avec Luka Doncic, qui a été échangé contre Anthony Davis. Et depuis, tout le monde se blesse. C'est incroyable, il n'y a plus de joueurs dans cette équipe. Nico Harrison, celui qui a fait ce trade, commence à penser qu'il y a un karma qui s'acharne contre lui. Et j'ai même l'impression que Jason Kidd...
Je te rappelle quand même que tu avais pris quelques secondes pour t'exprimer.
Ben oui, je suis encore dans les quelques secondes.
Vas-y, la question.
Et donc le coach est prêt quasiment à jouer. Donc je me pose la question sur le karma. Est-ce que ça peut exister dans
le sport? Le retour de bâton. C'est quoi? C'est du hand comme sport? T'as pas précisé le sport.
C'est un des sports les plus majeurs de ce matin, dans tous les cas dans les sujets.
Le rugby.
Le basket. Sport majeur, on parle.
Simon, tu proposes quoi aujourd'hui?
Une info que j'ai vu passer cette semaine qui m'a fait marrer. Tottenham qui envoie des scouts pour superviser un jeune défenseur du club de Fenerbahçe, désormais entraîné par Mourinho, qui a gardé la dent dure contre Tottenham. Du coup, lorsqu'il a appris qu'il y avait des scouts de Tottenham qui avait traversé l'Europe pour venir voir jouer son joueur, il l'a mis sur le banc. Est-ce que vous trouvez ça génial ou est-ce que vous trouvez ça
C'est bien.
En tout cas, on trouve ça drôle. Merci pour cette proposition. Allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Mark Twain qui a dit un jour: quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 4. Quand vous êtes très en colère, jurez.
RMC. Le bras de fer GG.
Il y aura un carton rouge. Oh là là, Paulo Fonseca qui va parler.
Pète un plomb.
Alors, oh là là, allez, pète un plomb.
Tu vas mettre un deuxième avertissement. Fonseca est rouge.
Pour expliquer là, Paulo Fonseca qui fait vraiment le geste. Il se rapproche de Benoît Millot, vraiment très proche, il faut le dire. Après son carton rouge. Hein.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je veux dire que je m'excuse. Je ne devais pas faire ça.
Le respect du corps arbitral est un principe sur lequel on ne peut pas transiger. Le football a besoin des arbitres. Monsieur Fonseca est un entraîneur de Ligue 1, mais c'est avant tout un éducateur. Et il va de soi que cette attitude est rigoureusement incompatible avec ses fonctions.
Qu'est-ce que je peux dire que je sens que est très, très injuste?
Les absents ont toujours tort.
C'est une sanction exemplaire, beaucoup trop sévère d'ailleurs pour l'Olympique Lyonnais. La commission de discipline de la LFP a lourdement suspendu Paulo Fonseca après son coup de sang contre l'arbitre Benoît Millot le week-end dernier. C'est une sanction qui fera date, inédite. Interdiction de vestiaire avant, pendant et après match pendant 7 mois. Interdiction de banc de touche pendant 9 mois. John Textor, le propriétaire de l'OL, a réagi dans la foulée et clôt le débat sur un possible départ de Paulo Fonseca. Je suis avec toi aujourd'hui et toujours, tu as fait une erreur. Tes excuses étaient sincères et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l'OL. Fin de citation. Pas de banc, pas de vestiaire, Peut-on encore entraîner dans ces conditions? C'est le bras de fer des GG aujourd'hui. Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Marc Madio et Fred Weiss. Oui, on peut encore entraîner.
On peut être d'accord.
Dans ces conditions. Dans le coin droit, la team Non, représentée par Simon Dutin et Philippe Saint-André. Le camp du
Philippe
Non.
Philippe Saint-André, un entraîneur. C'est
oh, mais on a un manager, ah, oui. Les copains, quand même. Puis un ancien joueur professionnel.
Ouais. Et toi?
C'est notre éditorialiste. Ah
non, moi je te bousille en.
T'as voulu nous mettre un tir, donc alors, on veut savoir.
Moi je te bousille en débat chaque semaine.
Ouais. Mais t'es pas sur le banc, toi?
Le camp du Non. Le camp du Non, vous êtes largement devant, 63%, 37% pour le Oui. Donc le Oui, vous allez commencer dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Aurélien Tirsin. Salut Aurélien.
Bonjour les amis, salut les GG.
Alors que peut donc faire et ne pas faire Paulo Fonseca pendant sa suspension?
Bien, pour résumer, Paulo Fonseca dirigera ses séances d'entraînement normalement, pourra même participer aux conférences de presse d'avant-match, mais le jour de match... Là, il n'a le droit à rien ou presque, si ce n'est de s'asseoir en tribune. Et attention, seulement à partir du 8e rang, c'est précisé dans le règlement. Sinon, pas de banc de touche, évidemment, pas de vestiaire, pas de communication avec ses adjoints, pas de conférence de presse d'après-match. Il devra donc déléguer à ses adjoints, a priori, Jorge Maciel. Ça concerne les matchs organisés par la Ligue de football professionnel. En Coupe d'Europe, il pourra coacher normalement, puisque la Fédération française de football n'a pas demandé l'extension de sa suspension au niveau mondial. L'OL espère aussi un allègement de sa sanction, puisque le club va déposer un recours, normalement d'abord devant la commission d'appel de la Fédération française de football, et puis ensuite il peut y avoir conciliation devant le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, et enfin possiblement saisine du tribunal administratif. Mais là, c'est le temps de la justice, ça peut prendre très longtemps, peut-être même plus que la suspension initiale de Paulo Fonseca, qui doit se terminer au mois de novembre.
Voilà, cette situation donc et cette affaire n'est pas encore réglée, mais vous avez entendu en tout cas ce qu'a dicté la commission de discipline, ce qu'il a le droit de faire et ne pas faire. Notre débat, peut-on encore entraîner dans ces conditions? Vous pouvez nous appeler le 3216, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio pour participer à notre débat. Le camp du oui, oui, on peut encore entraîner dans ces conditions, représentée ce matin par Marc Madio, Fred Weiss. C'est vous qui commencez, vous êtes derrière. Fred Weiss.
Déjà, bien sûr qu'il peut le faire. Alors, évidemment que ça implique une gymnastique un petit peu particulière. Il va falloir aménager des choses, évidemment. Mais il a les joueurs sous la main toute la semaine. Il peut les entraîner. Il peut passer son message, évidemment. Donc, il peut même, avant, les regrouper à l'hôtel, leur faire le speech d'avant-match, avant, justement, qu'il y ait le regroupement total. Il faut pour ça des assistants fidèles. Il a ses assistants depuis qu'il est passé par Lille. Donc, concrètement, ils sont plutôt fidèles. Ils comprennent sa philosophie et ils travaillent main dans la main depuis quelques années. Il faut des joueurs qui l'apprécient, qui l'aiment. Je crois qu'on l'a vu, sur le dernier match, ils sont venus, ils l'ont embrassé, ils ont été contre lui, ils ont montré l'amour qu'il lui portait. Et à partir de là, ça reste du foot, ça reste de la tactique. Tout va se passer à l'entraînement. On va expliquer toutes les possibilités qui vont se présenter pendant un match, parce que évidemment il n'y a pas qu'une seule possibilité. Ils vont tout élaguer, mais encore une fois, il va travailler avec des assistants qui connaissent son taf, qui connaissent sa philosophie et sa façon de voir. Donc ça implique quoi? Ça implique que avant match, il va faire des séances vidéo avec ses assistants pour bien expliquer ce qu'il veut faire. Ça implique quoi? Qu'après les matchs, il va revenir sur chaque action pour dire là j'aurais préféré ça, là j'aurais préféré ça.
Et pendant les matchs, du coup?
Et pendant le match, justement, non. Mais en fait, t'as pas écouté, vu que j'ai dit que c'était les assistants qui allaient prendre le relais.
Bien sûr.
Parce qu'ils connaissent la philosophie.
Les assistants, ils sont assistants pour quelle raison?
Donc, encore une fois, c'est une gymnastique. parce que justement, ils s'entendent très bien avec lui et qu'ils sont fidèles.
Et tu crées le mi-temps du coach. C'est-à-dire que si, par exemple, son équipe prend un carton rouge au bout de 10 minutes qu'il doit falloir une réorganisation, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait? Justement, il s'appuie sur ses assistants qui connaissent sa philosophie, qui savent ce qu'ils doivent appliquer. Et comme je disais, Fred, toutes les options possibles vont être prises en compte. Il va discuter avec ses assistants en disant, il y a un carton rouge, c'est ça. Il y a cette action-là, c'est ça. On est mené, on fait ça. On n'est pas mené, c'est ça.
Il va leur faire un PowerPoint pour toute la fin de saison. Il va leur faire un petit PowerPoint, un petit mémo. Alors, en cas de si vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitre,
tu n'as jamais eu cette relation avec quelqu'un, parce qu'apparemment avec Dissé, vous êtes pas aussi proche.
Figure-toi, c'est marrant que tu poses la question
de Dissé dans les émissions plutôt que de dire n'importe quoi.
C'est vrai, soulève le problème, parce que moi j'ai demandé au chef si je pouvais faire toutes les émissions depuis mon canapé en peignoir, ça m'arrangerait, parce que j'ai 45 minutes de trajet, tu vois. Comme Marion Bartoli, elle a négocié ça, moi je me suis dit que ça allait peut-être passer. On m'a dit ça.
Alors, écoute-moi. 45 minutes de transport pour venir aussi.
Écoute-moi. J'ai une copine infirmière. Elle va arrêter d'aller à l'hôpital. Elle va bosser depuis chez elle. Et elle va, ça va être super efficace, tu vois. Il y a pas vraiment besoin, tu vois, d'être.
Non, mais là c'est pas son choix.
Il y a pas besoin d'être en contact.
Il y a pas vraiment besoin d'être en contact comparé à quelqu'un. Tu aurais le choix. Il y a pas de choix.
Je sais un peu plus sérieusement. Je sais que c'est le règne du télétravail, tout ça. Je sais tout ça. Mais tu parles. T'as été joueur. Le mec, donc il va être à l'entraînement, voilà. Mais en match, ils seront pas là. Donc les mecs, quand ils vont se tourner, ils vont voir son adjoint. Encore une fois, les adjoints, ils bossent avec le numéro 1, le mal alpha, le top dog. Fonseca, c'est un gros caractère. Il va disparaître comme ça pendant les matchs. S'il y a le moindre fait de jeu, si au bout de deux minutes l'équipe adverse prend un rouge, bon, c'est pas lui, il va envoyer ses consignes, tu vois, par texto.
Non, il n'a pas le droit d'envoyer de consignes. S'il est dans le stade,
il n'a pas le droit. Et moi, ce que
s'il n'est pas dans le stade,
ce que je trouve fondamental.
Imaginons, il veut.
Non, mais ce que je trouve fondamental, c'est qu'il n'a pas le droit d'être non plus dans le vestiaire. Et le foot, le foot, c'est nourri d'histoires. D'entraîneurs qui changent le cours d'un match, qui changent le destin de leur équipe à la mi-temps. Oui. Le air dryer, le sèche-cheveux de Alex Ferguson. Comment il aurait fait s'il n'était pas dans le vestiaire?
Comment
tu fais pour secouer tes joueurs dans le vestiaire? Rafa Benitez, le miracle d'Istanbul, ils sont menés 3-0 à la mi-temps à Liverpool. Il leur dit, les gars, si on marque, parce que la légende, se nourrit
d'épiphénomènes.
Donc le mec, il sera pas dans le vestiaire.
Non.
Il a aucune prise sur le match. Et toi, tu m'expliques que comme ils seront bien entraînés. Mais combien de fois vous avez fait des bons entraînements? Toute la semaine, vous êtes arrivé confiant et vous avez pris une branlée.
En fait, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'entraînement.
Tu m'expliques qu'il va donner les consignes à l'entraînement.
Oui, les apports tactiques sont importants. Excuse-moi. Pas le fait de faire des bons entraînements. Ça n'a aucun rapport.
Jusqu'en septembre prochain, excuse-moi, Textor, il a raison de le défendre. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre entre la sanction, par exemple, de Fonseca et, enfin, en tout cas, on peut en discuter, la sanction de Longoria. Tu vois, par exemple.
On en parlera de Camboiré dans quelques instants. Je vous passerai un son de Camboiré. On a vu le premier affrontement, très bon affrontement entre Simon Dutin et Fred Weiss. On va voir le deuxième maintenant, entre Marc Madio et Philippe Saint-André. Vous n'êtes pas d'accord sur ce débat. Pourquoi il peut encore entraîner dans ces conditions? Vous êtes deux managers, donc vous êtes habitués et rompus à l'exercice.
D'abord, il a une chance, par rapport à d'autres sports, comme le mien par exemple, d'être au quotidien avec ses joueurs. Donc, 7 jours sur 7, il est en contact avec ses joueurs et il va pouvoir continuer à travailler comme il le faisait précédemment. Après, il y a un autre point important, c'est l'adhésion de son staff, de son président et de ses joueurs. Si ces gens sont tous ensemble réunis sur le fait pour se dire c'est une injustice et nous on va faire bloc avec l'entraîneur, ça devient une force.
Oui, mais ça dure 2-3 matchs.
Ça dure
7 mois.
Ça devient une force. Ensuite, il y a le côté pratico-pratique. Tu dis, il n'a pas le droit d'être dans le vestiaire, il n'a pas le droit d'être sur le banc de touche, il doit être au 8e rang. À la limite, moi je suis l'entraîneur en question Fonseca, je reste à l'hôtel. Je reste à l'hôtel, j'ai mes écrans, j'ai mon téléphone, et je suis en liaison permanente avec mon banc de touche. Il n'y a pas besoin d'être présent.
Tu contournes la loi. Tu la détournes, tu fais rien de mal, tu la contournes.
Eh ben voilà, tu contournes le règlement. Alors je dis pas que c'est la panacée, mais ça peut être rassembleur sur un projet au niveau du club. Et là, on le voit tout de suite, le président réagit et de toute façon, c'est lui qui l'a choisi, donc il peut difficilement le désavouer au bout de 2-3 matchs. Mais s'il y a cohésion, s'il y a bloc entre tous les membres du club derrière l'entraîneur, et combien même il serait pas présent au stade, il peut s'en sortir.
Ok.
Ça va pas être facile.
Mais il peut s'en sortir. C'est intéressant parce que forcément, s'il est dans le, et je donne la parole à Philippe après, s'il est dans le stade, les caméras seront braquées sur lui et il pourra donner aucune consigne. En revanche, s'il reste à l'hôtel, c'est plus difficilement probable.
S'il est dans la loge?
Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est malin de la part de Marc Madio. Philippe Saint-André.
Alors moi, premièrement, j'ai du mal à comprendre pourquoi le président le protège.
Il l'a choisi au départ.
Non, mais quelle image par rapport à sa formation, à ses éducateurs, etc. Là, déjà, l'exemplarité, c'est catastrophique. Alors après, j'ai bien compris, vous êtes prêt, vous, à un travail à mi-temps. Parce que dans un sport collectif,
à 90%
non,
à mi-temps.
Je vais t'expliquer.
Le match, c'est l'expression de tout ce qui a été travaillé la semaine.
Je vais t'expliquer que c'est du 50%. Il y a la semaine où tu prépares les matchs, etc.
Mais après, Coupe d'Europe aussi, Philippe.
L'entraîneur, et surtout au foot, au rugby, d'être juste avant le match dans les vestiaires, d'être proche des joueurs, faire du coaching, quand tu sens qu'un joueur va pas très bien, rentrer quelqu'un. Le discours à la mi-temps qui est primordial, qui est important. Le discours aussi après le match, t'en prends trois, tu dois donner des éléments de langage sur la communication, sur comment on va parler aux médias, etc. Et là, vous, ça, c'est pas important pour vous.
Tu penses que la réaction à chaud est très importante? Moi je pense pas. Je pense que dans le bus, c'est plus important justement tranquillement expliquer ce qui s'est passé plutôt que le faire justement directement à chaud.
Imagine qu'ils perdent deux ou trois matchs d'affilée. Il est pas là. Il est à l'hôtel ou il est au huitième rang, etc. Les joueurs après partent en vrille. Ses adjoints qui sont.
Tout va dépendre de la cohésion du groupe.
Qui sont des adjoints? Si c'est des adjoints, c'est que c'est pas des numéros un. Donc c'est des exécutif. Non, mais vous ne vous rendez pas compte l'importance du head coach, de l'entraîneur, sur la stratégie, sur le message à la mi-temps, sur le ressenti. Tu les as toute la semaine. Par contre, voilà, tu te dis, putain, celui-là, je le sens pas bien, il va sortir à la 50e, il parle un petit mot à le mec qui s'échauffe, tu vas rentrer, tu vas marquer un but. Il y a ces petits détails, mais qui font la différence. Et en plus, n'être pas là dans le vestiaire après une victoire, mais après une défaite surtout. Après une défaite, c'est hyper important. Tu remets l'église au milieu du village, tu redonnes les objectifs pour la semaine prochaine, tu prépares tes joueurs à la conférence de presse. Donc vous, mais non, il ne peut pas aller dans le vestiaire. Il est interdit de vestiaire pendant le match, à la mi-temps et après le match.
Vestiaire bande touche, et comme le dit Philippe, les mecs, quand ça va pas sur le terrain, tu cherches le regard d'un mec qui incarne, au-delà du fait qu'il a sa fonction et que sa fonction, bon, elle est en intérim.
Non, mais de toute façon, on va voir les auditeurs, qu'est-ce qu'ils disent. On va voir les stats des auditeurs, et on va voir si c'est pas
facile. C'est pas facile, c'est pas évident.
Les votes,
c'est pas insurmontable.
Il y a un charisme quand même, il y a une aura, il y a une présence rassurante, protectrice. Aimé Jacquet, qui n'était pas considéré comme le plus grand tacticien de la planète, si tu regardes, tu sais, les yeux dans les bleus, tu vois à la mi-temps du match contre la Croatie,
muscle ton jeu.
Vous avez peur, vous allez perdre, les mecs, vous sous-estimez
le travail des assistants. Les assistants ne sont pas premiers, parce que parfois ils n'ont pas envie de l'être.
Ça dépend, mais il manque le charisme aussi du boss.
Bien sûr.
Le charisme suffit pas.
Ça pouvait marcher que dans un contexte, c'est si cette suspension avait concerné Laurent Blanc. Parce qu'on sait que Jean-Louis Gasset... j'adore Laurent Blanc, plus je l'embrasse. C'était juste pour le bon mot, les copains. Il y a David qui nous appelle au 32-16, qu'il veut trancher sur ce débat. Salut David.
Oui, bonjour.
Salut David.
Merci d'être avec nous, David. T'es plutôt dans l'équipe Marc Madiot, Fred Weiss ou Philippe Saint-André, Simon Dutin?
Écoutez, moi, plutôt Saint-André Dutin. Pour moi, Fonseca peut entraîner l'équipe, mais ne peut plus la diriger. C'est-à-dire que pour moi, son rôle, là, il est en train de passer entraîneur adjoint, puisqu'il va faire des entraînements la semaine, il va préparer l'équipe la semaine, mais le week-end, c'est pas lui qui va diriger l'équipe. Donc, j'ai été éducateur de foot, maintenant je suis co-président d'un club. Un match, ça se vit à l'instant T. Quand vous avez une décision à prendre, parfois vous avez des décisions à prendre dans un match qui doivent être prises tout de suite, sur l'instant. Un mec que vous sentez qui va péter un câble, qui va prendre un deuxième jaune, vous le sentez, vous le sortez tout de suite. Une action.
Tout à fait d'accord avec toi,
bien sûr.
Ils ont une expérience, ils ont une confiance, et surtout ils ont la ligne de conduite du coach qui leur a dit comment ils voulaient jouer.
Je voudrais vous faire écouter parce que vous êtes exprimé, on a compris votre sentiment, c'est possible, c'est pas possible. Je voudrais vous faire écouter quand même Antoine Camboire, un ami de cette émission, hier en conférence de presse. Alors là, c'est autre sujet, mais il compare la sanction de Paulo Fonseca à celle de Pablo Longoria. Je vous propose de l'écouter.
Je trouve que c'est très lourd. Ça mérite une sanction lourde parce que donc ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Ce sont des sanctions UEFA. Là, il a le droit de rien. Ça m'a fait rire quand j'ai vu la sanction de Longoria. Il va être juste gêné, Longoria, parce qu'il pourra pas boire le champagne dans le vestiaire. Il va être obligé de boire la coupe de champagne là-haut dans la tribune. La commission discipline, elle est à côté de la plaque. Quand tu sanctionnes un président parce qu'il a traité donc les arbitres de corruption, moi, ça m'a fait rire quand je vois la sanction de Fonseca. Là, c'est pénalisant. Quand t'es entraîneur, lui, il peut rien faire.
Donc, c'est pénalisant.
Non mais voilà. On n'a jamais dit que c'était pas pénalisant en fait. Ne nous fais pas dire. Il pense qu'il préfère être sur le banc. Évidemment.
Fred, mais c'est pas impossible.
J'ai
compris. Bon, toi, c'est ton trip, c'est pas d'être entraîneur. Mais imagine, tu es président d'un club de basket et ton entraîneur ne peut pas être là le jour du match, avant le match, pendant le match, et surtout en plus vous au basket, ça tourne en permanence et tout. Qu'est-ce que tu fais?
Ben j'essaie de mettre des choses en place pour essayer de l'accompagner. Ça dépend quel camp. Ben
c'est utopique. C'est utopique ce que vous dites.
C'est utopique, mais
c'est pas irréalisable.
On en reparlera dans cette émission parce qu'on verra et on jugera.
Il faut voir aussi combien de temps ça va durer.
Ah bah si la sanction n'est pas.
Non mais je parle pas de la sanction.
Oui, peut-être qu'après
la défaite, confiance du président. Ouais.
En même temps, après, s'il perd, c'est pas de la faute du coach, c'est de la faute des adjoints.
Bien sûr.
Comme ça, au moins, il peut virer les adjoints et pas le coach.
Surtout qu'il en prend pour 7 et 9 mois.
Eh oui, exactement. Merci, David, d'avoir été avec nous au 32-16. C'est la fin de ce sondage. Hein. On vous a posé cette question. Et bien, sachez que vous avez gagné un petit pourcentage supplémentaire, Simon Dutin et Philippe Saint-André. Nous sommes désormais à 64% versus 36%. On ne peut pas entraîner dans ces conditions-là. Les copains, il y aura le match de Lyon dès demain et ce sera une première mise en pratique et on en reparlera dans cette émission. On revient dans quelques instants pour la punchline des GG avec Antoine Dupont comparé à Lionel Messi, le GOAT du rugby. Est-ce bien sérieux? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutin, Fred Weiss, Philippe Saint-André, Marc Madiot, nous sommes ensemble depuis 9h et jusqu'à midi, évidemment largement consacré à Irlande-France. À partir de 11h, on se demandera si Fabien Galthié a raison de mettre la pression sur l'arbitrage. Mais tout de suite, nous allons parler d'Antoine Dupont. La légende du rugby irlandais, Brian O'Driscoll, a fait des papouilles cette semaine à Antoine Dupont pour l'icône verte. Il n'y a aucun doute, c'est le meilleur joueur du monde, le GOAT, le Messi du rugby. C'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri, parce que c'était dans le middle.
RMC, la punchline GG.
Je n'ai plus de superlatif le concernant. Il ne change pas seulement le niveau de son équipe, il est en train de changer notre sport. Voilà pourquoi la France a construit son plan de jeu autour de lui, de ce qu'il veut faire et de ses super-pouvoirs. Il voit tout avant tout le monde. Être champion du monde, c'est la cerise sur le gâteau. Mais Lionel Messi n'a pas attendu d'être champion du monde pour être le meilleur joueur du monde. Ni pour entrer dans la discussion du meilleur joueur du monde. Dupont, c'est le Lionel Messi du rugby. Il est déjà le meilleur joueur du monde et son nom est légitime dans la conversation pour le meilleur joueur de l'histoire.
Et voilà pour cette citation, cette punchline de Brian O'Driscoll, où il compare Antoine Dupont à Lionel Messi. Peut-on vraiment être le GOAT sans avoir gagné le Graal? Et je pense à la Coupe du Monde, en l'occurrence. Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Fred Weiss.
Évidemment que non.
Philippe Saint-André.
Oui.
Marc Madiot. Ah, vas-y.
Ah, ça marche. Si on gagne pas, on peut pas être le GOAT.
Ok, c'est encore un 2 contre 2. Je vais commencer avec Philippe. Là, pourquoi il me dit oui, Philippe?
Oui, parce que vous parlez qu'il ne gagne pas. Il est champion de France plusieurs fois, champion d'Europe. Il a fait le grand chelem. Champion du monde à 7. Champion olympique à 7. Il lui manque qu'une chose, c'est la Coupe du Monde. Sinon, il a tout gagné. Et sincèrement, un joueur qui change une équipe comme il le fait auparavant, sincèrement, on l'a jamais vu dans notre sport. Tout ce qu'il fait, il décale, il crée, il va aussi vite qu'un ailier, il est aussi costaud qu'un avant, il conteste comme un troisième ligne, il crée des espaces autour de lui, il est décisif en permanence. Quand même, la saison dernière, il a perdu un match dans la saison. Homme du match finale du championnat, homme du match final de la Coupe d'Europe, rookie de l'année à 7 et déterminant aux Jeux Olympiques. Donc qu'est-ce que tu veux de mieux?
Tu sais ce que c'est un pare-buffle? C'est Fred Weiss que tu vas prendre dans le museau tout de suite.
C'est vrai que pour l'instant, Fred, on n'a jamais été d'accord sur un
attends,
sujet.
Parce que moi,
je suis un peu triste.
Moi je t'adore, Philippe, mais je sais que tu as joué contre Jonah Lomu.
Oui.
Et tu es en train de me dire que Dupont, c'est plus fort que Lomu aujourd'hui.
Oui.
Ok, très bien. Vas-y, Fred.
Bah, alors, je peux pas accepter cette comparaison avec Lionel Messi. Lionel Messi, il a 8 ballons d'or. Il a 8 ballons d'or.
Ça n'existe pas, le ballon d'or.
Il y a l'élection du meilleur joueur du monde, il est élu.
Il a été deux fois, lui, déjà.
Une, je crois. Bah, moi, j'ai vu une. Bon, admettons deux. Deux, c'est pas suffisant pour dire que c'est le GOAT. Nous, au basket, notre GOAT, c'est Michael Jordan. Pourquoi? Parce qu'il a été 5 fois meilleur joueur de la meilleure ligue du monde, qui est la ligue américaine, qui est comme un championnat du monde. D'accord? Il a gagné les Jeux Olympiques. Oui. Il a été MVP des finales 6 fois. Il a gagné 6 titres. Et c'est pour ça que c'est le GOAT. Parce que personne ne peut reproduire ça. Parce que c'est impossible. Parce que même LeBron James, en ayant marqué 50 000 points, il n'est pas considéré comme le GOAT pour la plupart des basketteurs. Il faut gagner parce que c'est les titres. Ouais,
on est un sport de combat, on peut pas jouer à 45 ans comme vous au basket.
Je suis d'accord, mais Michael Jordan n'a pas joué jusqu'à 45 ans et LeBron n'a que 40 ans. Donc, c'est un mauvais argument.
De ce côté-là aussi.
Non, mais c'est un mauvais argument. Non, à un moment, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut gagner parce que sinon tu rentres pas dans cette catégorie. Et quand j'entends, il transcende son équipe, je suis désolé, l'équipe de France, il a fait deux fois la Coupe du Monde,
déjà
deux
cet après-midi, il y a un petit match à gagner cet après-midi.
La Coupe du Monde, il a fait deux fois quart de finale. Et ensuite, il a gagné un seul tournoi du Grand Chelem. Et ça, c'est votre GOAT. Bon, alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes prétentions que nous. Nous, on attend un peu plus.
Ok, Simon Dutin, il fulmine.
Non, mais alors déjà, je pense que il y a aucun débat. Léo Messi, même s'il n'avait pas remporté la Coupe du Monde, il serait considéré comme le plus grand joueur de tous les temps.
Mais il a gagné la Coupe du Monde.
C'est pas la question. Il y a quelques années, moi, dans cette émission, j'ai dit que si Antoine Dupont était néo-zélandais, ça fait longtemps qu'on dirait que c'est le meilleur joueur du monde et qu'il n'y aurait aucune contestation. Et c'était bien avant qu'il atteigne les sommets.
On parle pas meilleur joueur du monde uniquement, là. On parle de GOAT du rugby.
Oui, c'est ce que dit sous le contrôle de Philippe, le rugby, c'est quand même le sport qui, par définition, laisse le moins de place à l'influence d'un seul joueur sur les résultats de l'équipe. Et or, Antoine Dupont, il a, plus que personne avant lui, je pense, eu cette influence déterminante et changer le destin et les résultats des équipes dans lesquelles
vraiment changer complètement.
Même si on en parlait tout à l'heure, c'est le paradoxe du rugby, c'est que désormais.
Non, mais tu changes le. Il a pas changé le destin là. Tu es en train de nous dire qu'il a changé le destin, il a rien changé du tout. On est toujours pas champion du monde. L'influence qu'il a 4 fois deuxième.
Je suis désolé. La Coupe du Monde, la Coupe du Monde, elle obsède un petit peu.
Elle obsède parce que c'est là qu'elle obsède l'adversité. Il n'y a pas d'adversité.
Elle obsède du rugby qui pense que la Coupe du Monde, c'est
au moins
le premier match. Philippe a rappelé le palmarès. Il est le meilleur joueur, le leader, le chef d'orchestre de la meilleure équipe du club
du monde.
De la meilleure équipe du club du monde. Le Stade Toulousain, c'est l'équivalent du Real Madrid. Donc, il est extraordinaire. Il fait des choses sur le terrain qu'on n'a jamais vues dans l'histoire du rugby par un demi-mêlée. Et encore une fois, de toute façon, le GOAT, il y a certains sports dans lesquels c'est très encore plus subjectif qu'ailleurs. En rugby, qui va te dire que c'est un joueur actuel, le GOAT. Pourquoi ce serait pas, en effet, John Alomou qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde? Il y a plein de gens qui, et même
mais
des gens
GOAT,
de rugby qui vont te dire
que John Alomou au-delà de son sport. Et John Alomou, moi, c'est celui qui m'a fait découvrir le rugby.
Il a jamais remporté la Coupe du Monde.
Il a fait demi-finale, il a fait finale.
D'accord, mais il a un moins grand palmarès. Il est jamais venu se confronter au rugby européen.
Juste une phrase. Tu dis qu'Antoine Dupont n'a pas de palmarès. Je viens juste de regarder.
Oui, mais là,
pas...
En 6 ans,
19 trophées en 6 ans. Donc oui, il ne gagne pas.
Avec quelle adversité, surtout?
Il fait un grand chelem.
Oui,
il fait un grand chelem. 19 trophées en 6 ans.
Ok. Voilà. Marc Madio n'est pas intervenu sur ce débat. T'es dans le même camp que Fred.
Mais non,
toi, on peut pas être le GOAT sans avoir gagné.
Mais à un moment, faut être réaliste. Alors tout à l'heure, on parlait du rugby. Ah oui, mais on gagne pas, mais on va quand même gagner l'année prochaine. Et là, maintenant, vous êtes en train de nous sortir le GOAT. Il est pas champion du monde. On gagne pas le tournoi tous les ans. Mais il est quand même le GOAT. C'est un immense joueur, c'est le meilleur joueur de la planète, il n'y a pas de doute avec ça.
Il n'y a pas de doute.
Mais pour être le GOAT, il faut passer le stade au-dessus. Et le stade au-dessus, c'est minimum, une Coupe du Monde.
Et le GOAT en rugby, c'est qui alors? Dites-moi,
c'est John Alomou. Pour moi, c'est John Alomou.
D'accord, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas gagné le top 14, il n'a pas gagné la
demi-finale, parce qu'il
fait une
demi-finale. Pour moi, il a représenté plus, il a permis au rugby d'avoir des sponsors, de se réaliser, complètement. Pour moi, quand je pense au rugby, je pense à John Alomou. Je suis désolé.
Et moi, je pense à Wilkinson.
Ben, Mais je l'entends.
Voilà. Oui, on peut le mettre sur la table et poser la question, est-il le GOAT?
D'accord.
Moi, je dirais plus facilement aujourd'hui, avec le temps passé,
que Wilkinson est le plus le GOAT qu'en fait champion du monde.
Si tu parles du GOAT, c'est
Richie McCaw, voilà. Capitaine des All Blacks, troisième ligne, deux fois champion du monde d'affilée.
Mais le GOAT.
Plus de 100 sélections, 88% de victoires avec les All Blacks. Voilà.
Donc mieux que Antoine Dupont, c'est ce que tu es en train de dire, Philippe?
Bah oui.
C'est ce que tu nous expliques.
Non, mais Antoine Dupont, ce qu'il fait dans un sport collectif ou dans un
c'est
sport
magnifique,
collectif
normalement,
on est d'accord.
Tu n'es rien sans les 14 autres.
Mais
et lui, il change les codes.
Jamais qu'il les change encore cet après-midi.
C'est jamais dans l'histoire du rugby, peut-être à part Lomu, un joueur n'a eu autant d'influence le destin de son équipe.
Mais est-ce que c'est la question?
David Campese, c'était le magicien australien, il a été champion du monde. Bon, ben voilà, à une époque, on t'expliquait que c'était le meilleur joueur de l'histoire.
Jonah Lomu, je l'ai joué 4 fois, 3 fois d'affilée, on l'a gagné.
Voilà. Ah, ok.
Voilà.
Donc c'est pas le GOAT. Donc c'est pas le GOAT lui.
Mais non, mais Jonah Lomu, ce qu'il a fait, il a fait rentrer le rugby dans une autre dimension.
Dans une autre dimension.
Voilà.
Et est-ce qu'on peut pas considérer?
Attends.
Parce qu'il
dit que c'est comme Sébastien Chabal. Comme Sébastien Chabal, moi j'ai entraîné Sébastien Chabal pendant 8 ans. Sébastien Chabal a été la tête de gondole de la Coupe du Monde en France par TF1.
En 2007.
Ouais. En 2007. C'est encore un des joueurs de rugby les plus médiatiques. On l'entend sur RMC, il fait des publicités, etc. Mais c'est pas pour ça que ça a été le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France.
On peut pas comparer Chabal et Lomu non plus, quoi. Alors, j'entends ce que tu dis. Il a fait entrer le rugby dans les foyers.
Dans les foyers.
Grand public.
Ben oui.
Mais Lomu, c'était un peu plus que ça, quand même.
Non, mais Lomu, ça a été le premier mec qui faisait 110, 115 kilos, qui faisait moins de 11 ou 100 mètres. Et puis, il y a l'image en demi-finale en Afrique du Sud.
Sur
Mike 4. Et après, il marche sur 3 Anglais. Et il a été exceptionnel. Mais si tu parles des résultats, des trophées, McCaw et Antoine Dupont.
Alors, ok. Pour toi, alors, j'en finis avec ça. Pour toi, quel est le plus grand joueur de l'histoire? Tu restes sur McCaw et Dupont, le plus grand joueur de l'histoire du rugby? Ou tu mets Wilkinson, toi qui l'as eu aussi, Wilkinson à Toulon.
Wilkinson pour l'Angleterre, bien sûr, parce qu'en plus,
il passe
le drop goal pour être champion du monde.
Si la question de savoir, c'est est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire du rugby français, Antoine Dupont, je pense que tout le monde dit oui.
On est tous d'accord.
Du monde entier. Le GOAT aujourd'hui.
On
met Antoine Dupont de côté parce qu'il n'a pas fini sa carrière. Ok. C'est qui pour l'instant? Hors Antoine Dupont, hors ceux qui jouent. Celui qui représente le plus le rugby, qui a le plus gagné.
Ah ben celui qui a le plus gagné, c'est McCaw.
Ok. Et pour toi, dans ton cœur, ton GOAT, ça s'appelle Jean-Pierre Rive. Hein. Enfin, je sais pas.
Tu sais quoi?
On a quelques instants de pause.
Ouais,
tu vas pouvoir réfléchir et on va vous donner la réponse. Le GOAT de Philippe Saint-André, c'est dans quelques instants sur RMC. Et puis, ce seront les GG contre-attaque aussi. Qui a gagné ce matin? La réponse dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Fred Weiss, Simon Dutin et Philippe Saint-André. Alors mon Philippe, on l'a trouvé ce GOAT ou pas du rugby?
Je vais te faire plaisir, Johnny Wilkinson, voilà.
Ah, Johnny Wilkinson.
Gentleman, en plus j'ai eu la chance de l'entraîner, et puis un leader incroyable. Moi, il m'a changé les vestiaires par son exemplarité et son professionnalisme.
Okay.
Donc Johnny Wilkinson. Par contre, si Antoine Dupont est champion du monde en Australie, il n'y aura pas de débat.
Rideau.
Pas de débat, rideau. Parce que ce qu'il fait, il est déterminant pour une équipe, et ça, on l'a rarement vu dans un sport collectif comme le nôtre.
J'y sais, sois rassuré, c'est pas prêt d'arriver.
Bah si, j'espère quand même. Ne soyons pas des fétistes. Allez, tout de suite, c'est à vous de jouer les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. La belle histoire de Mourinho, de Tottenham, de scouting. 16% malheureusement.
Ah, j'ai
très belle histoire.
J'ai 17 là à l'instant. Excuse-moi parce que je suis.
Très bien. Ça ne changera pas l'issue. Troisième, je suis assez surpris. Luis Enrique est-il le meilleur? 18% pour toi, mon cher.
J'ai 17 également ici, pardon. Ça fait 3e ex aequo. Non, mais c'est important.
Très bien. Vous avez tous les deux 17. Bon.
Déception, mais on reviendra la semaine prochaine.
Encore plus fort, bien sûr. Le karma de Dallas, ça aussi c'était un bon débat.
C'est un bon débat.
Que des blessés 3%. Dans la franchise des Mavericks.
Non.
24%. Bravo.
Merci.
Et puis alors, c'était unanime. 42% pour le banc concocté par Fabien Galthié, comme face à l'Italie. C'était d'ailleurs une première dans l'histoire. Le banc 7-1 avec 6 avant. C'est risqué. Fabien Galthié fait all-in. On t'écoute. Philippe Saint-André.
Oui, Fabien Galthié fait all-in. Alors, pourquoi? C'est les Sud-Africains qui ont créé cela la première fois juste avant la Coupe du Monde. Ils ont été champions du monde en faisant cela. Mais pour moi, c'est très risqué. Pourquoi? Parce que tu prends qu'un trois quarts sur le banc des remplaçants. Tu es pas à l'abri que lors de la première mi-temps, tu as deux trois quarts qui se blessent. Et si tu as deux trois quarts qui se blessent, c'est toute ton animation offensive, toute ta défense de ligne sur le premier rideau qui est en grande difficulté. Alors pourquoi il fait cela? Parce qu'on va revenir aussi sur Antoine Dupont. On a un système de jeu où on utilise énormément les avances sur du jeu à une passe. Et donc, dans la stratégie de Fabien Galthié, il veut, à la 50e, 55e minute, changer 5 ou 6 avants, donc changer 80% de son paquet d'avant pour continuer ce jeu à une passe, ce jeu d'avancer sur les impacts, mais qui est très compliqué pour les avants. Alors, il fait all-in. Si ça fonctionne, bravo. Par contre, j'espère, et je l'espère vraiment, qu'on n'ait pas un blessé derrière, surtout en première mi-temps, parce que sinon, ça désorganiserait complètement l'équipe de France.
Philippe, j'imagine qu'il y a réfléchi à ça depuis longtemps. D'ailleurs, il l'a pas sorti du chapeau comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé justement à comme tu dis, faire all-in, à se dire voilà, tant pis si on a un blessé, je prends ma part de responsabilité, mais c'est ça qu'il nous faut.
Alors pourquoi? Parce que en ayant Ramos et Dupont, Ramos est capable de jouer 15 et 10, Antoine Dupont est capable de jouer 9, 10, 12, il peut même jouer ailier. Depuis 3-4 semaines à Marcoussis, il travaille avec des troisième lignes qui sont capables de jouer centre ou ailier, mais pour moi, un avant qui passe pour les trois quarts, ça va les 10 dernières minutes en fin de match, mais si jamais tu as un avant qui doit passer au poste d'ailier, le jeu sans ballon, les duels aériens, tout ce qui est les chasses, etc., c'est très complexe, c'est très compliqué, c'est un autre métier. Ça a fonctionné contre l'Italie, l'équipe a été très bonne, les avants quand ils sont rentrés, ils ont fini le boulot de ceux qui avaient commencé, donc il fait all-in contre l'Irlande parce qu'il sait que ça va être un combat énorme devant. Par contre, voilà, tu es pas à l'abri de blessures. Le rugby, c'est un sport d'impact, c'est un sport de contact. Tu peux avoir un trois quarts qui se blesse à tout moment.
C'est vrai.
Et là-dessus, il prend énormément de risques. Alors, ça a été anticipé, préparé, ce que je te dis. Ils ont mis des avant situations avec les trois quarts. Mais tu peux bricoler pendant 15-20 minutes sur une fin de match. Mais si jamais ça t'arrive au bout de 20 minutes, parce que ça arrive en top 14, en Coupe d'Europe, comme moi, ça m'est arrivé en équipe de France, que tu aies deux trois quarts qui se blessent lors des 20 premières minutes.
Philippe, autre question, parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui entendent parler de ce 7-1, ce banc avec 6 avants.
7 avants, pardonne-moi,
pour donner un peu plus de poids et de corps à la 50e, à la 55e minute et pour justement rentrer dans le paquet irlandais, ça on peut le comprendre suffisamment. En quoi ça changerait les plans de Fabien Galthié de mettre 6 avants et pas 7 avant, tu vois, de faire 6-2. Est-ce que ça change tout, en fait? Parce qu'on a l'impression que ça change tout. Si on met 7-1 ou 6-2, c'est plus du tout la même chose, alors qu'on se dit, bah, si t'as 6 avant sur le banc, peut-être que ça suffit, non?
Oui, mais parce que sa stratégie de 7 avant sur le banc, c'est qu'à la 60e minute ou 55e minute, il change 6 avant. Il change 6 avant et il en garde un. Il est obligé d'en garder un parce qu'au niveau international, si t'as quelqu'un qui se blesse, tu peux pas faire rentrer un joueur qui est sorti. Donc, tu es obligé de garder un joker et le dernier avant, il le fait rentrer les 5, les 8 dernières minutes. Et actuellement, il met le seul remplaçant, c'est Lucu, qui est buteur et qui est capable de jouer 9 ou 10. Donc, si tu as un blessé derrière, ça va. Et en plus, l'autre risque, c'est qu'Ntamack sera titulaire ce week-end. Et Ntamack n'a pas joué depuis 5 semaines. Et on sait l'intensité qu'il va avoir. Donc après, Fabien Galthié, s'il fait ce choix, il a Ntamack depuis 5 semaines avec lui. Donc il pense qu'il a assez de kérosène pour jouer pendant 80 minutes. Mais je reste quand même, je suis pas un adepte de 7 avant 1 3 quarts parce que c'est prendre énormément de risques. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il fait all-in avec une paire de deux. Voilà, il fait all-in.
Ok, tu l'aurais pas fait avec une paire de deux.
Non, j'aurais fait 6 et 2.
Ok, parfait. Il est 10h55, c'était très intéressant. En plus, c'était ton
bon
sujet.
Bon débat.
Il a le droit. Ah bah oui, vous n'avez pas. Oui, mais fallait gagner,
non,
les copains.
Écoutez religieusement.
Bah, oui.
Simon, c'est le meilleur débat qu'il fait depuis la matinée et il va se plaindre en plus.
C'est vrai qu'il a été excellent sur ce débat.
Il est exceptionnel, Simon.
On se retrouve dans quelques instants. Irlande-France encore au programme et ce sera pas tout. Le dossier des GG, on va parler de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez vu en foot. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec notre Coupe du Monde, mais ça peut vous intéresser. Et puis il y aura le débat caché. Donc il y a un peu d'Irlande-France encore sur l'arbitrage. Et puis il y aura d'autres sujets. Restez bien avec nous. À tout de suite sur RMC avec une très très bonne équipe ce matin. Franchement, ça, vous êtes pas loin de la double prime. Vous n'êtes pas loin de la double prime. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.